L'UNEP, les entreprises du paysage et plateforme.garden vous présentent Alerte Bioagresseur.
La nouvelle série podcast à découvrir chaque mois dans le fil d'actualité de votre application
et sur les plus grandes plateformes d'écoute.
Alerte Bioagresseur, un podcast qui vous aide à trouver les solutions face aux maladies et ravageurs que vous rencontrez sur vos chantiers et à adopter les bonnes pratiques.
Alerte Bioagresseur, le podcast qui fait de vous
un véritable expert.
Ce podcast vous est offert par le SVP Bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal,
plateforme.garden.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série de podcasts Alerte Bioagresseur à retrouver chaque mois sur votre application Plateforme Garden, mais également sur les plus grandes plateformes d'écoute. Un podcast réalisé en partenariat avec l'UNEP, les entreprises du paysage et Plateforme Garden, l'app des pros du végétal. Dans ce premier épisode d'Alerte Bioagresseur, nous allons parler avec Barbara Dekeyser, l'experte UNEP elle-même, des bioagresseurs invisibles tels que les tipules, les noctuelles, les chenilles et des solutions naturelles existantes pour lutter contre eux. Bonjour Barbara.
Bonjour Jérôme.
Alors nous sommes ravis de vous retrouver. On a eu l'occasion déjà d'échanger il y a quelques temps de cela et on s'était promis de vous retrouver sur l'application Plateforme Garden au travers d'un podcast. Un podcast voilà, qui est consacré aux bioagresseurs, qui sera découpé en trois parties. On va parler des bioagresseurs sur les arbres, sur les arbustes et vivaces et sur le gazon également. Et on va commencer du coup par cette première thématique, les bioagresseurs xylophages sur les arbres. Pouvez-vous nous expliquer, Barbara, ce qu'est un bioagresseur xylophage et quels sont les principaux types de bioagresseurs sur les arbres?
Les bioagresseurs xylophages sont des insectes qui, sur un de leurs stades au moins, vont se nourrir du bois des arbres, en particulier en général des parties vivantes, donc de l'aubier, avec des dégâts qui vont aller du dépérissement d'extrémités de rameaux à des dépérissements plus complets, quelquefois à la mort des sujets. Les grands groupes de ces xylophages vont se retrouver parmi les coléoptères et également parmi les lépidoptères. Nous avons choisi d'axer là sur un ravageur très commun du thuya, en particulier du thuya plicata, le bucpreste du thuya, ou l'empra festiva ou ovalesia festiva ou palmar festiva. On va également parler sur les feuillus de deux autres bioagresseurs assez communs, le Cossus gadebois ou Cossus cossus, et puis la zozère, qui est également assez fréquente, même si les dégâts sont assez localisés.
Et justement, donc, quels sont les dégâts causés par les bioagresseurs xylophages sur les arbres?
Eh bien, on va se retrouver avec des dégâts de dépérissement, puisqu'en fait, on va avoir des rameaux qui vont sécher, des extrémités de rameaux, puis ensuite des rameaux de plus en plus gros. Et puis, on peut avoir également des dégâts mécaniques avec des casses sur des jeunes sujets, des casses de branches, des casses de troncs, puisqu'on a une fragilisation du bois localement avec des loges qui peuvent être relativement importantes. C'est le cas notamment avec le cossus ou avec la zozère qui peuvent faire des loges relativement large dans le tronc. Du coup, le bucpreste est un ravageur du thuya, mais également des genévriers, des cyprès, qui va être pondu par un adulte qui fait à peu près 1 cm de long, qui est très beau, vert métallique, avec des points plus foncés, en général bleus, sur le dos. On peut l'apercevoir pendant l'été sur les extrémités de branches aux heures chaudes de la journée, qui va pondre du coup pendant l'été des œufs dans les anfractuosités d'écorce. La larve va, elle, se développer des petits rameaux vers les rameaux les plus larges et par le tronc. On repère cet insecte-là par ses trous de sortie, parce que la femelle, elle ne fait pas de trous au moment où elle pond ses œufs, elle les dépose dans les creux naturels de l'écorce, mais c'est la larve qui va faire un trou en émergeant en adulte. Et c'est un trou caractéristique qui est ovale, à peu près 4 mm de haut sur 2 mm de large, et qui est très, très typique de l'espèce. Sur thuya, bucpreste conduit à des dépérissements complets de haies, En général, on part sur des premiers symptômes localisés, quelques rameaux, et puis on va avoir une multiplication du bioagresseur, et donc on va avoir un dépérissement. On peut aller vers un dépérissement complet des haies. En tout cas, c'est le principal responsable des dépérissements de haies de Thuya plicata aujourd'hui. On a la même chose avec, enfin, on va avoir des dégâts qui peuvent être ponctuellement importants avec le Cossus gadbois. Sa particularité, lui, c'est un lépidoptère. Le Buprest, c'est un coléoptère. Le Cossus gadbois, il a une larve rouge, celle-ci va émettre, enfin, rouge lit de vin. Et celle-ci va émettre une sciure qui, elle aussi, va être rouge. En général, au collet des troncs d'arbres, et le Cossus attaque à peu près tout ce qui est feuillu. Pareil, on a un adulte sur la période estivale, une ponte et donc une éclosion des larves en début d'automne, et une émergence de l'adulte au bout d'un an, au mois d'avril-mai. Juin, pour reprendre à nouveau un cycle. Avec la zoser, on peut avoir des cycles qui vont durer plus longtemps, sur 2 ans, selon qu'elle se trouve sur la moitié sud de la France ou la moitié nord de la France. Et on a un papillon qui est assez caractéristique. Autant Cossus gadbois, c'est un papillon terne qui fait même un mimétisme avec l'écorce des feuillus, donc il est gris avec des motifs marrons. Autant Zozera pyrina, c'est vraiment un papillon blanc avec des petits points noirs. Sa chenille, elle aussi, est blanche avec des petits points noirs. La zozère, qui est pourtant une larve de lépidoptère, et le buprest ont toutes les deux la même forme, sont des chenilles beige, annelées, avec des têtes en forme de massue, donc des têtes et des abdomens plus larges que le reste des abdomens, avec des têtes plus larges que le reste du corps, donc une forme en massue assez caractéristique.
Barbara, quels sont les ennemis naturels de ces bioagresseurs et comment peuvent-ils être encouragés?
Alors, les ennemis naturels de ces bioagresseurs, on va les trouver essentiellement. Alors, il y a des champignons, hein, naturellement, qui vont se développer sur les larves, mais on va avoir classiquement tous les oiseaux piqueurs, donc de la famille des picidés, pivert, piquet-pêche, piquet-pêchette, pie-rouge. Et donc, on a tous ces oiseaux qui tapent pendant l'écorce, ne sont pas responsables des dégâts. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils détectent la larve et donc ils vont la chercher dans l'écorce. Donc, on considère que ce sont eux qui font les dégâts sur les arbres, alors que finalement, ils sont des auxiliaires. Donc, ce sont des oiseaux à valoriser. On les a entendus il y a quelques semaines de ça, taper assez furieusement sur des troncs bruyants. C'est une attitude pour attirer les piques femelles notamment et indiquer aux autres piques que le territoire est déjà pris par un tique.
Et comment peut-on lutter contre ces bioagresseurs de manière efficace, notamment en utilisant des méthodes plus respectueuses de l'environnement?
Alors la lutte contre ces bioagresseurs-là, la particularité, c'était le parti pris de ce premier podcast, c'était d'aller chercher des bioagresseurs qui sont difficiles à observer, qu'on observe en général pas directement, mais dont on observe les dégâts, les trous de sortie, la sciure, etc. Ou les dépérissements qu'ils entraînent. Donc la lutte est un petit peu compliquée. Classiquement, les larves de Cossus, les larves de zozère avec un petit fil de fer introduit dans le trou d'où émerge la sciure, on peut arriver à extraire la larve. Et donc on est sur du mécanique. Finalement, on est un petit peu sur la même méthode que le pic avec des moyens moins perfectionnés que lui. Donc on enlève un peu l'écorce avec un ciseau à bois et puis on va à la pêche dans la galerie. Et puis sur buprest du thuya, on coupe les rameaux qui commencent à changer de couleur et qui sont en cours de dépérissement et on évacue ces rameaux dans lesquels la larve est encore en train d'évoluer. En général, des larves qui sont très à l'abri lorsqu'elles sont à l'intérieur du bois. Et c'est pour ça que même du temps où on avait des produits de traitement, on n'avait pas de possibilité d'atteindre ces insectes xylophages.
Alors merci Barbara pour ces éléments. Nous allons pouvoir aborder la deuxième thématique qui était consacrée aux bioagresseurs sur les arbustes et les vivaces. Alors quels sont les principaux bioagresseurs qui affectent les arbustes et les vivaces, Barbara?
Alors celui dont on a choisi de parler, c'est un insecte, un charançon en l'occurrence, donc un coléoptère extrêmement commun, mais qu'on oublie souvent de rechercher dans les jardins. En plus, c'est un bioagresseur extrêmement fréquent chez nos producteurs parce que c'est un bioagresseur qui adore les substrats légers et chauds et qu'il retrouve évidemment dans la culture en conteneur tout ce qu'il lui faut pour être extrêmement pour vivre heureux. Donc l'Othiorhynque qui est un charançon donc de la famille des coléoptères. C'est un insecte gris à noir avec un rostre relativement prononcé, c'est-à-dire une tête très allongée, un nez à la Cyrano en quelque sorte. Oui. Et l'adulte lui se repère assez facilement avec par les encoches qu'il crée sur le bord du feuillage. Donc on parle de feuilles poinçonné parce que c'est vraiment que le bord du feuillage, c'est rare qu'il fasse un trou au milieu de la feuille, il entame toujours les feuilles par le bord du feuillage. Ses végétaux de prédilection, c'est le lilas, le lierre, les viburnums, toutes les plantes de terre de bruyère, donc rhododendron, azalée. Ouais. Il va également beaucoup apprécier le fusain, le troène, les plantes de haie, comme le photinia notamment, et l'if. Mais pour le coup, sur l'IF, on n'a pas du tout de symptômes au niveau des aiguilles de l'IF. On a bien des symptômes au niveau racinaire. Parce que l'Othiorhynque, quand il n'est pas un adulte en été en train de circuler dans les végétaux, de préférence la nuit, il est une larve, un petit ver blanc, souvent enroulé sur lui-même, avec une tête plus noire. Et cette larve, sur... quelquefois jusqu'à 18 mois, va se délecter des racines, et en particulier des parties jeunes des racines. Cette larve, c'est elle qui fait finalement le plus de dégâts. Les dégâts des adultes sont essentiellement esthétiques, alors que les dégâts des larves finissent par vraiment affaiblir des végétaux. Donc, on a des végétaux qui vont moins bien réagir à l'arrosage et moins bien réagir aux fertilisations, puisque... c'est pas le manque de ressources là en l'occurrence qui est limitant, c'est la capacité à capter ces ressources puisque les racines sont très largement broutées et rendues inefficaces par la larve. Cet Othiorhynque est un ennemi extrêmement classique des plantes d'ornement, extrêmement présent chez les producteurs, donc il faut vraiment être vigilant. Dès que vous avez des dépérissements de plantes relativement importants avec des plantes qui semblent affaiblies, peu de feuillage, des problèmes de carence alors qu'il y a une alimentation qui est là, des problèmes de manque d'eau, enfin des symptômes qui peuvent être ceux du manque d'eau alors que l'arrosage est présent.
Quels sont les ennemis naturels de l'Othiorhynque, du coup, Barbara ?
Alors, l'Othiorhynque, il va se faire manger éventuellement par des oiseaux qui fouillent un petit peu qui vont fouiller un petit peu le sol, retrouver éventuellement les larves. Et l'adulte, il est très difficile à atteindre. Il peut être éventuellement mangé par des staphylins, des carabes, des insectes prédateurs qui sont au sol et opportunistes. Mais globalement, il a assez peu d'ennemis naturels et c'est pour ça qu'il faut être vigilant lorsqu'on entretient les jardins.
Et du coup, quelles sont les méthodes de lutte les plus efficaces contre l'Othiorhynque ?
Eh bien, d'abord, on va rechercher l'habitude de l'Othiorhynque. Il aime les sols qui se réchauffent vite. Donc, tout ce qui est plantation en jardinière, tout ce qui est plantation hors sol, il faudra être particulièrement vigilant. Dès qu'on aura des substrats légers comme ceux de terre de bruyère, on devra également être encore plus vite alerté lorsqu'on a un végétal qui s'affaiblit. Et donc, on peut travailler avec le paillage, puisque le paillage va conserver une humidité qui ne va pas forcément beaucoup plaire à sa larve. Mais surtout, on luttera efficacement avec des pulvérisations de nématodes, notamment Heterorhabditis bacteriophora, qui est adapté sur l'Othiorhynque, dans la lutte contre l'Othiorhynque. Ce sont des pulvérisations de nématodes entomopathogènes qui vont contaminer, parasiter la larve d'Othiorhynque, la retrouvant dans le sol par le CO2 qu'elle émet, qui vont pénétrer dans la larve, la parasiter et entraîner très vite la suppression de la consommation des racines, la perte d'activité de la larve. Donc c'est une méthode assez facile à mettre en œuvre. Il faut penser à travailler sur un sol frais parce que le nématode, lui, il va circuler par les lames d'eau autour des particules du sol. Et donc, il lui faut un sol relativement humidifier, en tout cas un arrosage préalable et dans les jours qui suivent le traitement pour que le nématode puisse retrouver son hôte et parasiter correctement son hôte.
Après les bioagresseurs sur les arbres, sur les arbustes et vivaces, nous attaquons la troisième partie, troisième et dernière partie concernant les bioagresseurs sur les gazons. Barbara, quels sont du coup les bioagresseurs les plus courants qui affectent les pelouses? On parle de tipules, de noctuelles, des gazons.
Exactement, Jérôme. Nous avons choisi de travailler sur l'ordre des insectes en termes de bioagresseurs sur gazon, même s'il y a beaucoup de maladies. Nous avons pu identifier l'automne dernier deux bioagresseurs un petit peu plus fréquemment qu'habituellement. La tipule, qui est un diptère, et la noctuelle des gazons, qui elle est un lépidoptère. Tipule, on l'appelle également grand cousin des prairies. C'est une sorte de très grand moustique avec une envergure de 4 à 5 cm. On voit souvent l'été autour des lumières se cogner au plafond des pièces éclairées la nuit. Donc c'est un grand moustique, mais sans risque pour nous, il ne pique pas. Mm-hmm. Heureusement, vu la taille de ses pattes, on pourrait craindre des énormes boutons. Et donc ce moustique, la femelle pond quelquefois même en vol, elle lâche ses œufs en volant au ras des gazons. Mmh. Et ces œufs vont donner à la fin de l'été des larves, des grosses larves qui font 4,5 cm les plus en fin de cycle larvaire, et qui vont brouter les racines et brouter les collets des graminées. Pour elles, il n'y a pas de trou de sortie, on ne voit pas de trou d'émergence, même si elles sont capables de sortir de la terre. La noctuelle, elle, en général, elle se caractérise par un trou qui est très vertical, du diamètre d'un crayon de papier. Et la larve vit dans ce trou la journée et ressort la nuit, soit mange des racines, soit mange, broute carrément les brins d'herbe à proximité de son trou. Donc on a dans les deux cas des taches qui sont circulaires, en tout cas arrondies, oui, avec un brunissement des gazons, avec un dessèchement de la partie engazonnée. Mais souvent, on se rend compte, quand on regarde de près, qu'on a très peu de feuillage, très peu d'enracinement si on essaye d'arracher. Oui. Et souvent, on retrouve les larves dans les premiers centimètres du sol. La noctuelle, c'est ce qu'on appelle un ver gris. C'est une larve qui va tout de suite s'enrouler sur elle-même. Elle aussi peut faire jusqu'à 5 cm en fin de cycle, alors que la larve de tipule, elle en règle générale reste droite, reste rectiligne, et elle a la particularité d'être beige à grise, avec on ne distingue pas finalement ce qui est antérieur de ce qui est postérieur, on ne fait pas la différence entre la tête et la queue. Donc c'est vraiment un ver en forme de tube assez particulier. En tout cas, les deux sont assez communes, et sur des types de gazons un peu différents, la tipule préférant les gazons arrosés, la noctuelle préférant les gazons à tendance sèche.
Quels sont les ennemis naturels de ces bioagresseurs, justement ?
Ce sont des larves très riches en protéines, donc ça fait le bonheur des hérissons, notamment, éventuellement des musaraignes, en tout cas de tous nos arpenteurs de jardin. Ça fait également le délice des taupes, mais là, forcément, il y a débat sur l'effet des taupes. Ça fait également les délices des corvidés, et là aussi, il y a débat, parce que quand on a un terrain qui est très envahi, on va avoir des corbeaux, des corneilles qui vont retourner énormément le gazon et faire des dégâts très importants, type labour, un peu à la façon des sangliers. Les sangliers sont aussi des amateurs de larves de tipules et de noctuelles. Donc voilà, ce sont des ennemis naturels dont on ne recherche pas forcément l'activité et la compagnie. Tout à fait.
Barbara, quelles sont les méthodes de lutte les plus efficaces contre ces bioagresseurs?
Alors, tipules et noctuelles, elles aussi vont se traiter comme l'oturinque, avec des nématodes entomoparasites, donc des nématodes parasites des larves du sol, qui vont pénétrer par les orifices naturels de ces larves et les contaminer avec des bactéries notamment qu'ils portent sur leur épiderme. Donc la lutte se fait par pulvérisation au sol. On a d'autres nématodes avec noctuelles et tipules. le bon choix du coup est d'aller vers des nématodes spécifiques comme Sternerema carpoxae. Qui va particulièrement bien fonctionner. Comme pour l'Othurinque, il faudra penser à arroser le gazon avant l'application et après l'application pour permettre aux nématodes de bien se répartir dans le substrat et du coup de bien trouver leurs hôtes.
En tout cas, merci Barbara pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Alerte Bioagresseur. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses sur les bioagresseurs invisibles qui peuvent causer des dommages importants aux plantes. Nous vous encourageons à être vigilants et à surveiller attentivement vos arbres, arbustes et pelouses pour détecter toute attaque de bioagresseurs dès que possible. N'hésitez pas à poser vos questions directement à Barbara Dekeyser, l'experte UNEP, sur l'application Platform Garden, grâce au SVP Bioagresseur, qui est accessible depuis les fonctionnalités Jardi Alert ou Coach. Merci infiniment à vous, Barbara, de nous avoir consacré ce temps. Nous vous retrouverons donc le mois prochain pour un nouvel épisode d'Alerte Bioagresseur. Barbara, pour nos auditeurs, pouvez-vous déjà nous annoncer, nous dire de quoi il sera question le mois prochain ?
Alors, le mois prochain, le parti pris sera plutôt d'aller vers les bioagresseurs de type fongique. Et donc, nous irons explorer les agents de chancre sur les bois, sur les arbustes et les dégâts foliaires sur gazon.
Très bien. On vous donne rendez-vous début mai. Le prochain épisode sera diffusé début mai. À écouter, bien sûr, sur l'application Platform Garden et sur les plus grandes plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify, Ocha et bien d'autres. Merci infiniment, Barbara. Et je vous dis donc au mois prochain.
À bientôt, Jérôme.
Vous rencontrez un problème de bioagresseur sur vos chantiers ?
Interrogez directement l'expert UNEP sur l'application plateforme.garden.
Ce service est réservé aux adhérents UNEP.
Ce podcast vous a été proposé par le SVP Bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal, plateforme.garden.
Plateforme.garden.